affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans une sorte d'encyclopédie consacrée au Paris moderne, l'écrivain Jules Janin, par ailleurs académicien, écrivait au début des années 1830 ceci. Dans les petits métiers, le chiffonnier est au moins le premier. Le chiffonnier est le plus grand des industriels en petit. C'est un être à port grave, solennel, muet, qui dort le jour, qui vit dans la nuit, qui travaille, qui spécule la nuit, c'est le dernier être de la création qui fasse justice de tout ce qui se dit ou s'imprime dans le monde. Le chiffonnier est inexorable comme le destin. Il est patient comme le destin. Il attend, mais quand le jour du croc est venu, rien ne peut retenir son bras. Tout un monde a passé dans sa hotte. Les lois de l'Empire, dans cette hotte immense, courent rejoindre les décrets républicains. Tous nos poèmes épiques depuis Voltaire y ont passé. Tout le journal depuis 30 ans s'est englouti dans cette hotte après avoir dévoré tout ce qui s'était remis debout. La hotte du chiffonnier, c'est la grande voirie où viennent se rendre toutes les immondices du corps social. Sous ce rapport, le chiffonnier est un être à part qui mérite son histoire à part. Eh bien, chers auditeurs, cette histoire de la chiffonnerie que Jules Janin appelait de ses voeux existe désormais. Elle a été réalisée par Antoine Compagnon qui a publié voici quelques mois chez Gallimard « Les chiffonniers » de Paris, un ouvrage qui était distingué par le prix Guizot, décerné par l'Académie française. Or, Antoine Compagnon n'est pas historien, mais polytechnicien et professeur de littérature française au Collège de France. Mais il n'y a là probablement rien que de très normal, car l'histoire des chiffonniers, comme on verra, est tout à la fois industrielle et littéraire. Son essor au XIXe siècle est en effet lié aux nouveaux besoins de l'industrie, et comme le XIXe siècle est aussi l'âge d'or du roman français, il est aussi devenu un héros littéraire aux multiples facettes, qu'on le retrouve à maintes reprises dans l'œuvre de Hugo, de Gautier et bien d'autres, et même au cœur de celle de Baudelaire. Tantôt alchimiste, poète, philosophe, bandit, mouchard, incarnation du temps, de la mort et même du diable, le chiffonnier est un passeur. Aujourd'hui disparu de notre imaginaire collectif, il méritait d'être ressuscité à notre conscience dans toute sa richesse, et ce que nous allons faire avec Antoine Compagnon. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peut-être faut-il expliquer plus précisément ce qu'est ce chiffonnier de Paris, car s'il est encore un peu présent dans notre imaginaire, son image est considérablement brouillée.
Dans le passage de Jules Janin que vous avez cité, il y a beaucoup de choses. On dit d'abord qu'il a une hotte et un crochet. Ce sont ses instruments non seulement symbolique, mais réel. Le chiffonnier se promène dans les rues de Paris avec ce panier sur le dos et ce crochet métallique au bout d'une canne en bois. Et cela lui permet de trouver les chiffons dans les tas d'ordures au coin des rues de Paris. Alors le chiffonnier, c'est celui qui ramasse les chiffons. Alors on a un peu oublié ce sens-là. Aujourd'hui, quand je dis que je me suis intéressé au chiffonnier, on pense aux brocanteurs, on pense aux chiffonniers d'Emmaüs, on pense aux fripiers. Le chiffonnier, au XIXe siècle, a une fonction tout à fait singulière. Il ramasse des chiffons pour faire du papier, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de faire du papier avec des vieux chiffons, jusqu'au moment où on fera le papier avec le bois, avec la cellulose. Et comme il y a de plus en plus besoin de papier au XIXe siècle, parce que l'école se développe, parce que la presse se développe, parce que la librairie se développe, eh bien, le chiffonnier est un personnage très important. Vous avez entendu que Jules Janin l'appelait un industriel. Il est un petit industriel, il est le modèle du petit industriel. Alors ce qui est intéressant, c'est que le chiffonnier, il existe depuis qu'on fait le papier avec le chiffon, c'est-à-dire depuis la fin du Moyen-Âge. Et son activité s'est développée avec l'imprimerie depuis le XVIe siècle. Mais c'est véritablement à partir de la fin du XVIIIe siècle qu'il devient un personnage très important dans l'économie urbaine, tout simplement parce que le besoin de papier augmente. Et en France, le besoin de papier, ben, il est devenu... la demande excède l'offre, si l'on veut, à partir de la révolution industrielle et à partir du moment où la presse se développe, c'est-à-dire véritablement les débuts de la Restauration. Donc c'est un personnage très important à partir des années 1820. Économiquement, c'est un agent indispensable de la modernisation de la société. Et puis, son moment de gloire s'estompe à partir des années 1870, parce que le papier se fait désormais avec la cellulose du bois. Donc il y a une soixantaine d'années pendant lesquelles il est véritablement un personnage tout à fait omniprésent dans la vie économique, dans la ville, on le voit partout.
Mais combien sont-ils à cette époque?
Eh bien, d'abord, ils doivent être enregistrés à la préfecture de police, et il y en a environ, pendant toute cette période, 6000 enregistrés. Mais on pense qu'ils ne sont pas tous enregistrés, et qu'il y en a 30 000, selon les statistiques qu'on trouve, parce que le 19e siècle est la grande époque de la statistique, donc on pense qu'il y en a environ 30 000. Et... on les voit dans les rues avec leurs hottes et leurs crochets. C'est un personnage très très présent justement dans les représentations. C'est pourquoi j'ai trouvé autant de caricatures. Et il y a beaucoup d'images dans ce livre parce que j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Il est véritablement, j'ai envie de dire, un homme orchestre du 19e siècle. Alors c'est intéressant parce que sous l'Ancien Régime, il faisait partie des petits métiers.
De l'ensemble des petits métiers.
Et on voit souvent au 17e et au 18e siècle la représentation du chiffonnier avec sa hotte et son crochet, hein, depuis toujours, auprès de tous les autres cris de Paris. Alors le chiffonnier ne crie pas, lui, puisqu'il il ramasse les ordures et qu'il travaille surtout la nuit. Mais il est là avec la marchande d'allumettes, avec la marchande de coco, avec le ramoneur,
le savetier,
tous les autres. Il est là avec tous les autres, celui qui ramasse les bouts de fer entre les pavés de Paris. Il est là, mais tous les autres petits métiers ont tendance à disparaître dans la grande ville moderne, dans la métropole moderne, tandis que lui survit aux autres, et c'est véritablement à ce moment-là qu'il a sa période de gloire.
Alors ce que l'on découvre, c'est que de surcroît, je m'imaginais qu'il s'agissait d'une activité spontanée, ce l'est pour une partie puisque tout le monde n'est pas enregistré, mais c'est une véritable corporation qui, comme toutes les corporations, a sa hiérarchie sociale très différenciée. Est-ce que vous pouvez peut-être nous la décrire déjà?
C'est évidemment un métier très organisé. Il faut imaginer qu'on a là une troupe qui circule dans Paris à toute heure du jour et surtout de la nuit à fouiller les tas d'ordures pour ramasser des chiffons. Évidemment, la police voudrait les contrôler et elle voudrait aussi les embrigader puisqu'il faut les contrôler d'une part parce qu'ils peuvent être dangereux, ils sont armés et puis comme on sait, ils se battent. On se bat comme des chiffonniers, c'est à peu près tout ce qu'on a retenu d'eux dans la langue contemporaine. On se bat autour du tas d'ordures pour trouver le trésor. Et donc ils sont dangereux, il faut les embrigader, et le métier est régi par un arrêté de la préfecture de police de Paris de 1828, pendant toute cette période, qui dit qu'ils doivent être médaillés. Donc ils ont une médaille sur leur hotte et sur la lanterne, puisqu'il y a un troisième instrument du chiffonnier avec la hotte et le crochet, c'est la lanterne qui lui permet de s'éclairer lorsqu'il circule la nuit. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y en a à peu près 6000 qui sont enregistrés à la préfecture, qui sont médaillés, mais il y en a beaucoup plus. Alors évidemment, il y a une hiérarchie des chiffonniers, puisque c'est une sorte de mafia. On ne s'improvise pas chiffonnier dans telle ou telle rue de Paris. Cette rue est le territoire d'un tel qu'il a conquis de haute lutte et qui en général est en cheville avec les portiers et les concierges du quartier qui sortent les... Enfin non, à l'époque on ne sort pas les ordures. On les dépose au coin de la rue, mais il faut avoir de bons rapports avec les portiers et les concierges pour avoir accès aux trésors.
Donc ça, ce sont ce que vous appelez les chiffonniers placés.
Les chiffonniers placés, oui, le chiffonnier coureur, hein, c'est le le coureur, celui qui fait les rues de Paris et qui parfois est placé parce qu'il est, il a véritablement...
Il a un territoire.
Et puis il y a une hiérarchie, puisque c'est un métier dans lequel au 19e siècle on peut réussir. Et il y a eu des fortunes qui ont été faites dans la chiffonnerie. Parce que certains chiffonniers, eh bien, se sont retrouvés des grossistes. Et les grossistes accumulent la marchandise, le chiffon, surveillent les cours de la bourse du chiffon et vendent lorsque les cours montent. Et la bourse de la chiffonnerie, c'est le quartier de la rue Mouffetard, hein, c'est le quartier du Faubourg Saint-Marcel. Donc c'est là où tous les coureurs de Paris, n'oublions pas que Paris est petit, hein, c'est le Paris de la barrière des fermiers généraux, c'est le Paris intramuros. Tous les chiffonniers, coureurs, vont donc autour de Saint-Médard pour vendre des chiffons. Et là, il y a des grossistes qui deviennent en quelque sorte des banquiers, hein, puisqu'ils c'est eux qui prêtent aux chiffonniers et qui, s'ils réussissent vraiment, peuvent devenir papetiers, puisque c'est ce chiffon qui sert ensuite dans les moulins à faire papier. Donc il y a eu des fortunes faites et il y a donc toute une hiérarchie du chiffon, du grossiste au papetier.
Alors même si ce n'est pas un métier évidemment prestigieux, vous dites également que même le chiffonnier de base peut gagner davantage qu'un ouvrier à cette époque.
C'est ça. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'on a beaucoup d'enquêtes, hein, sur la sociologie du métier, sur le budget du chiffonnier, et le chiffonnier gagne 2 à 3 fois plus qu'un ouvrier. Mais les conditions du prolétariat parisien, on sait combien elles étaient dures et abominables à cette époque. C'est un métier sale, c'est un métier ignoble, mais le chiffonnier, par exemple pour Frédéric Leplay, hein, pour l'économiste libéral, est le modèle de ce qu'on pourrait appeler l'auto-entrepreneur. Hein. C'est quelqu'un qui veut être libre, qui est son propre patron, qui détermine lui-même ses horaires et qui travaille quand il l'entend, comme il l'entend. Alors évidemment, la contrepartie de cette liberté, c'est la réputation qu'a le chiffonnier d'être toujours ivre. Il est ivre parce que, dit-on, il supporterait mal de travailler dans de telles conditions, dans les ordures, s'il n'avait pas cette adjuvant qui lui permet de supporter ces conditions de travail. Donc, il y a beaucoup de mythes autour du chiffonnier. Je n'ai pas cité la bataille du chiffonnier, l'ivrognerie du chiffonnier.
Oui, bon, on peut en parler.
Et constante. Hein. On le représente toujours traditionnellement ivre. Alors, il boit du vin, hein, le poème de Baudelaire, le vin des chiffonniers. Il boit de l'eau de vie. Il fréquente les cabarets des halles et des barrières. Hein. Il est toujours associé aux barrières. Et quand on dit les barrières, n'oublions pas, c'est pas très loin les barrières à l'époque. Hein. Là où sont les gares aujourd'hui de Paris, hein, toutes les gares, elles sont à l'endroit des barrières. Hein. Donc c'était là qu'étaient ces cabarets où le vin coûtait un tiers moins cher, puisqu'il n'y avait pas l'octroi pour le faire pénétrer dans la ville. Donc c'est dans les barrières que les chiffonniers rencontraient la bohème. La bohème, les poètes, les peintres, puisqu'il y a une grande complicité de la bohème et des chiffonniers pendant toute cette période.
Oui, quand vous citez les observations de Leplay sur le chiffonnier vu comme un auto-entrepreneur, car il est libre, maître de son temps et autres, on retrouve ce type d'appréhension des chiffonniers dans un monde littéraire où effectivement ça prend plus la forme du flâneur qui, tout en ramassant les papiers, la tête dans les étoiles, observe.
Alors il y a là aussi un mythe très important durant toute cette période, c'est celui du chiffonnier philosophe. Et là aussi, on pourrait dire, au fond, c'est pour accepter l'image du chiffonnier dans la société. On se dit, il a choisi librement ce métier.
Oui, on peut entendre un peu parler la même chose sur les clochards aujourd'hui.
On pourrait dire, oui, il y a la même légende. Elle s'est poursuivie avec les clochards. Je l'ai connue quand on nous l'a raconté dans les années 50. Quand j'étais enfant à Paris, le clochard avait...
Beaucoup de légendes urbaines.
C'est la même légende urbaine. Et donc, le chiffonnier philosophe. Il est le modèle du philosophe. Il est toujours comparé à Diogène, qui a une lanterne comme le chiffonnier. Je donne une gravure de Daumier qui représente Diogène en chiffonnier, donc il y a une confusion parfaite de ces images. C'est le chiffonnier philosophe, et dans la littérature du 19e siècle, tout le monde a rencontré un chiffonnier qui parlait grec ou latin. Et donc c'est un savant, c'est un homme libre et
au-delà des contingences sociales, de l'apparence,
qui vit comme il l'entend. Alors je crois que c'est une image très commode pour accepter finalement ce rôle qui est le sien, qui est un maillon crucial dans l'économie contemporaine.
Toutefois, vous avez retrouvé la trace d'au moins deux chiffonniers philosophes authentiques.
Authentiques, je ne sais pas, parce qu'il y a un fameux liard qui traverse toute la littérature et toute la période. On l'a rencontré, Champfleury l'a rencontré, on dit qu'il a servi à Frédéric Lemaître de modèle dans une pièce célèbre de Piat qui s'appelle Le chiffonnier de Paris. Il y a beaucoup de littéraires qui l'ont rencontré, de littérateurs qui l'ont rencontré. Bon, il y a de Traviès, il y a une fameuse caricature qui représente le chiffonnier philosophe, Liard, caricature qui date, si mes souvenirs sont bons, de 1822. Non, 32, pardon. Et mais Liard est aussi un mythe. Jules Janin, que vous citiez, lui aussi a rencontré un chiffonnier qui parlait grec et latin. Mais bon, moi je n'ai pas vu Liard.
Bien entendu. Quelle est sa véritable sociologie alors, et le chiffonnier, d'où est-il issu? Il y a plusieurs moments vous citez des sources qui tendent à laisser penser que, par exemple, les grognards, les soldats démobilisés de Napoléon, en constituent
un
large bataillon.
En effet, il semble que pendant toute cette période, et je dis en gros donc des années 1820 aux années 1870, beaucoup de chiffonniers aient été d'anciens soldats, d'anciens militaires, et durant la première période, c'était donc des anciens grognards, démobilisés au début de la Restauration, et au fond chômeurs,
ou déclassés,
revenant de la campagne de Russie. Et n'oublions pas que le nom du chiffonnier, c'est le biffin, et que ensuite c'est passé pour désigner le fantassin.
Oui.
Mais le biffin, c'est d'abord le chiffonnier. Donc il y a cette proximité dont nous avons gardé trace dans la langue entre le chiffonnier et le fantassin, c'est-à-dire le soldat de la grande armée qui a fait la campagne de Russie et qui est revenu et qui peut donc marcher, faire une autre campagne dans les rues de Paris. Et puis, il y a eu d'autres générations de soldats. La conquête de l'Algérie, la guerre de Crimée, il y a eu des retours et des soldats. Bon, on le sait, les vétérans ont toujours eu du mal à retrouver une place dans la société. Donc, il y a cette tradition du chiffonnier, ancien grognard, qui se prend pour un général ou un maréchal d'Empire lorsqu'il est ivre. Alors, il y a ça dans le poème de Baudelaire, mais il y a ça dans beaucoup d'autres représentations. Le chiffonnier mythomane ou mégalomane. Alors, il y a d'autres... Il ne faut pas oublier non plus que les chiffonniers, ce sont aussi des chiffonnières. On a employé toujours ce mot au masculin, mais selon les statistiques de la préfecture de police, un tiers des chiffonniers sont des chiffonnières. Et alors, quelle est l'origine de ces femmes? Là aussi, alors, dans quelle mesure est-ce vrai? Dans quelle mesure est-ce une légende? En tout cas, si c'est une légende, elle est adoptée par la préfecture de police et par ses statistiques. La préfecture de police nous dit que beaucoup des chiffonnières sont des anciennes prostituées, des anciennes l'ancienne courtisane. Alors on en trouve dans la littérature, chez Janin, chez d'autres, le passage du quartier Bréda, le quartier Bréda en dessous de Pigalle. Mais c'était juste en dessous de Pigalle à l'époque, c'était là que se trouvaient les courtisanes. Ensuite, elles descendent du quartier Bréda jusqu'au quartier Mouffetard. Et les le destin des courtisanes, c'est de devenir chiffonnières. Et je montre, je crois, une belle caricature de Gavarnie où on a les anciennes courtisanes, les anciennes lorettes, hein, puisque Gavarnie avait inventé ce nom de lorette pour les femmes du quartier de Notre-Dame-de-Lorette, hein, du quartier Bréda. Eh bien, elle porte la hotte. Mais la hotte, le petit nom de la hotte dans la langue du 19e siècle, c'est le cachemire d'osier. Pourquoi est-ce un cachemire d'osier ? Eh bien parce que le premier bien de la courtisane, c'est son cachemire. Le châle d'Inde qu'elle porte sur le dos, c'est son capital, c'est ce qu'elle se fait offrir par l'homme qui l'entretient.
Oui, car c'est un tissu qui ne s'use pas ou moins.
C'est un tissu qu'on peut considérer, c'est un capital. Le cachemire, c'est un capital. Dans l'éducation sentimentale, Rosanette se fait offrir un cachemire par M. Arnoux. Malheureusement, le cachemire vient du même magasin que celui de Mme Arnoux, ce qui posera des problèmes. Mais le cachemire, dont les représentations, c'est le capital de la courtisane. Et par conséquent, oui, on a le sentiment que c'est le destin de la courtisane que de devenir chiffonnière lorsqu'elle n'est plus jeune. Et je cite quelque part une belle anecdote que j'emprunte à Maxime Ducamp dans son récit de Paris, d'une courtisane dans une très belle voiture qui est dans les encombrements du faubourg Saint-Antoine. Alors, ça dans les représentations de Paris, le faubourg Saint-Antoine, c'est le faubourg ouvrier, alors que le faubourg Saint-Marcel, c'est le faubourg chiffonnier. Et il y a donc un antagonisme entre le quartier ouvrier et le quartier chiffonnier. On s'entend pas très bien entre ouvrier et chiffonnier. Les chiffonniers, c'est le lumpen prolétariat, mais c'est un lumpen prolétariat d'indépendant qui peut gagner davantage qu'un ouvrier. Et donc cette voiture avec une chiffonnière qui vient de l'hippodrome de Vincennes...
Une élégante,
une courtisane est coincée dans le faubourg Saint-Antoine et il y a un gavroche, un garnement parisien qui, alors qu'elle est l'objet des colibés de la foule, qui dit « Laissez passer les chiffonnières de l'avenir ». Donc la chiffonnière de l'avenir, c'est la courtisane qui est au sommet de sa réussite
de
courtisane, de sa splendeur. C'est les splendeurs et misères des courtisanes.
Alors précisément, est-ce que dans cette expression de la chiffonnière comme allégorie du destin, il y a pas aussi, on met pas le doigt sur un élément important, c'est-à-dire que le chiffonnier peut être dans la vie réelle, peut bénéficier dans la vie réelle d'un ascenseur social, mais il représente aussi le déclassement, la chute, vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot destin.
En effet, mais alors il faut sans doute distinguer, comme dans un certain nombre de textes littéraires de l'époque, le chiffonnier qu'il est par déclassement et le chiffonnier qu'il est par vocation, justement. Le chiffonnier philosophe, celui qui réclame la liberté, ce flâneur populaire, proche du poète, c'est celui qui est chiffonnier parce qu'il l'a voulu. A-t-il vraiment existé celui-là ? En tout cas, il existe dans la littérature et dans les représentations. Et puis, il y a le chiffonnier qui l'est parce qu'il est déclassé comme ce soldat qui ne trouve pas d'emploi après les campagnes militaires. Il y a évidemment cette représentation du chiffonnier. Mais alors, on dit aussi dans certains textes qu'il y a des Auvergnats. Comme les Ramoneurs sont savoyards, il y aurait aussi la catégorie des Auvergnats parmi les chiffonniers, sans doute en cheville avec les tenanciers de débit de boisson, puisqu'il y a une grande proximité entre chiffonnier et débit de boisson. Et puis aussi, il y a une autre catégorie qui est répertoriée par la police et qui fait qu'elle voudrait les contrôler. Il y a beaucoup de repris de justice. Hein. Grognard, repris de justice et Auvergnat, selon l'un des textes de ces sociologies de l'époque.
Alors vous avez cité tout à l'heure la préfecture de police de Paris et sa volonté de les contrôler, de les répertorier, et même d'effectuer une sorte de sociologie des chiffonniers. C'est la grande époque dite des classes dangereuses. Alors font-ils ou non partie de ces classes dangereuses? En quoi se différencient-ils des autres dans le jeu social, où les place-t-on?
Alors, ils font clairement partie des classes dangereuses, c'est pourquoi la police souhaite les contrôler. Ils se battent, ils sont ivres, ils sont armés. Donc, ils sont dangereux. Mais en même temps, ils sont embrigadés par la police comme des auxiliaires de police. Et à différentes reprises, il y a eu des projets de les, pour ainsi dire, fonctionnariser, d'en faire comme les agents municipaux pour la récolte des ordures le seront plus tard. À l'époque, ce n'est pas encore le cas. Il y a des contrats avec des sociétés privées. Donc, ils sont aussi des auxiliaires de police. Ils sont, c'est l'un des constats que j'ai fait dans ces recherches, ils sont plutôt du côté de l'ordre et de l'autorité. Anciens militaires, reprise de justice sur lesquelles la police peut exercer un chantage, prostituées qui sont elles aussi anciennes prostituées contrôlées par la police. Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, raconte que lorsqu'il est emprisonné pendant quelques jours à la préfecture de police, il voit le matin arriver des indicateurs déguisés en chiffonniers. Donc il y a une grande proximité entre le chiffonnier et l'indicateur de police. Et c'est pas une surprise, puisque fouillant les ordures de Paris, il est capable de renseigner les autorités sur tout ce qu'il trouve dans ces ordures. On dit parfois que les meilleurs indicateurs de police, ce sont les concierges au XIXe siècle. Eh bien, les chiffonniers sont tout proche de cette population des concierges. Et bon, j'avais été très surpris de découvrir que les membres du comité de salut public sous la Révolution étaient comparés à des chiffonniers, puisqu'ils fouillaient les ordures des gens, le passé des gens, et du coup, réciproquement, pendant tout le XIXe siècle, un surnom des chiffonniers, c'est membre du comité des recherches. Le nom du comité de salut public, avant qu'il s'appelle comité de salut public.
Donc ça fonctionne dans les deux sens.
Donc ça fonctionne dans les deux sens. Et jusqu'aux années 1870, quand on dit membre du comité des recherches, on sait que c'est le chiffonnier. Alors que ce comité des recherches a existé pendant un an, entre 1889 et 1891, sous la Révolution. Mais le mot est resté. Et il y a là donc une équation qui est faite entre l'inquisiteur de la Révolution et le chiffonnier, qui ça a pu arriver. Il y a dans les archives des lettres qui ont été récupérées par des chiffonniers et apportées au comité de salut public. Et ces lettres qui ont pu provoquer des persécutions, en effet. Donc socialement, le chiffonnier, c'est ce que j'ai pu constater, n'est pas un élément de désordre dans la société parisienne du XIXe siècle. Il est plutôt du côté de l'ordre.
Il est turbulent, mais il n'est pas révolutionnaire.
Turbulent. En 1832, au moment du choléra de Paris, le plus grand choléra, il y a une émeute des chiffonniers, parce que le préfet de police veut faire évacuer les ordures sur le champ, immédiatement, hors des murs de Paris, pour des raisons d'hygiène. Les chiffonniers jettent les voitures des ordures dans la Seine. Ils se rebellent et ils l'emportent contre le préfet. Donc, mais c'est une rébellion qui est tout à fait professionnelle, qui n'est pas politique.
Oui, c'est que ça, c'est là. Dans une distinction marxiste ou marxienne, on dirait que ce sont des révoltés, mais pas des révolutionnaires.
Voilà, c'est le lumpenprolétariat. Et Marx avait bien vu que ce lumpenprolétariat pouvait être un allié de, en l'occurrence, Louis-Napoléon Bonaparte. Et cela conduit à être assez prudent dans l'interprétation politique qu'ils représentent. Bon, les chiffonniers, en période révolutionnaire, sont au chômage technique, puisqu'il n'y a plus d'ordures, c'est le désordre dans les rues de Paris. Et en 1848, comme en 1871, eh bien, leurs revenus chutent.
Dans cette figure du chiffonnier, ce qui est fascinant au fil de la lecture de votre ouvrage, c'est de voir à quel point il absorbe, il dissout des polarités totalement contraires. C'est-à-dire que c'est un personnage tout à fait ambivalent. Plusieurs reprises, vous dites qu'il peut représenter par exemple le roi ou le déchu, le diable, le jugement dernier, en positif.
Alors le chiffonnier, oui, j'ai constaté qu'il devenait une sorte d'allégorie de la roue de la fortune au XIXe siècle. Quand on fait référence au chiffonnier, eh bien, c'est cette image de la roue de la fortune que l'on a plutôt tendance à descendre qu'à monter. Hein. Et pourtant, on nous dit, les sociologues nous disent, on ne pourrait pas être chiffonnier si on n'avait pas ce rêve de trouver un trésor dans les ordures. C'est ça qui alimente tout chiffonnier. Trouver le billet de 1000 francs, mythique billet de 1000 francs dans les ordures, ou les couverts en argent. Donc il y a partout, dans tous les textes qui parlent du chiffonnier, il y a ce mythe du couvert en argent ou du billet de 1000 francs. Et en même temps, il représente la chute, et la chute la plus emblématique au XIXe siècle, c'est la chute du roi. Donc il y a une analogie qui fonctionne durant toute cette période entre le chiffonnier et le roi. Le roi, le souverain, qui cherche sa couronne dans les ordures. Et je montre des caricatures de Napoléon en 1815 qui sont très emblématiques, puisqu'il a son épée au lieu du crochet, et ce qu'il cherche, c'est la couronne dans l'ordure. Et ce thème de la couronne dans l'ordure traverse tout le siècle. En 1848, je citais le mélodrame de Félix Piat qui s'appelle « Le chiffonnier de Paris ». Au lendemain de la Révolution de 1848, la grande scène de cette pièce, c'est la scène où le chiffonnier retourne dans sa mansarde, renverse sa hotte et décrit, fait l'inventaire de sa hotte. Et en février 1848, au lendemain de la Révolution, que trouve-t-il dans sa hotte ? Une couronne. Et c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, si mes souvenirs sont bons. Et la foule, c'est une représentation gratuite. Et la foule est en délire au moment où cette hotte est trouvée dans les ordures. Ce qui scandalise, ou scandalisera un peu plus tard, Jules Janin, qui était brouillé avec Félix Piat. Mais ça nous montre bien que pendant toute cette période, le chiffonnier est en quelque sorte le double du roi, dont la tête tombe dans un panier le jour de l'exécution de Louis XVI. Et c'est une analogie que je trouve par exemple chez Hugo. Hugo a beaucoup exploité cette métaphore du chiffonnier comme représentation du destin jusqu'au jugement dernier. Et il y a un très beau passage du Rhin où, lorsqu'il voit le diable avec une hotte sur le dos et un bâton à la main dans une sculpture de la cathédrale de Fribourg, en Suisse, eh bien, Hugo assimile ce Satan à un chiffonnier. Il est l'opérateur, l'agent du jugement dernier. Et c'est présent dans la citation de Jules Janin que vous avez lue pour commencer, où il évoque cette grande voirie. Cette grande voirie, eh bien, c'est la vie jusqu'au jugement dernier. Autrement dit, le chiffonnier devient une personnification de Satan, ou si l'on veut, de l'histoire, de cet agent du jugement dernier. Il est l'histoire.
Et la justice.
Et la justice. Hein, c'est le dernier justicier. Et il faut il fouille, et ce qui restera, eh bien, c'est ce que le chiffonnier retiendra. C'est pour ça que c'est un personnage important. Il personnifie le jugement dernier. Il est comparé au juif errant, autre métaphore qui parcourt beaucoup de textes. Il est comparé au juif errant parce qu'il marche
tout le temps. Oui.
Comme lui, il est condamné à marcher jusqu'au jugement dernier, justement. Puis enfin, il est, c'est peut-être la métaphore la plus intéressante, il est comparé au poète. Il est assimilé au poète puisqu'il a affaire, comme lui, au papier. Et que la poésie, elle se fait avec, selon une représentation qui est très présente, elle se fait avec des déchets. C'est le recyclage permanent, la poésie. C'est l'économie circulaire, comme on dit aujourd'hui.
Poète qui transforme la boue en or.
Voilà. Alors, c'est pourquoi Baudelaire s'intéresse tellement au chiffonnier. Hein. Il y a le poème. Le point de départ de tout ce livre, c'était tout de même Baudelaire. Hein. C'est la présence du chiffonnier dans le vin des chiffonniers. Et puis, dans le poème, dans le vin des chiffonniers, c'est le chiffonnier qui est comparé au poète. Et puis, il y a le poème qui s'appelle Le Soleil, où cette fois, c'est le poète qui est comparé au chiffonnier. Ce sont des poèmes très anciens de Baudelaire qui marquent bien cette analogie avant 1848, très présente dans la société. Et lorsque Baudelaire dit « Paris, capitale infâme, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or », il faut se représenter ce qu'est la boue au XIXe siècle. Hein. La boue, c'est pas ce que nous représentons sous le mot de boue, comme de la terre et de l'eau. La boue, c'est excrémentiel, c'est ordurier, c'est ce qu'il y a dans les rues de Paris avant Haussmann, c'est-à-dire des déchets d'animaux, d'excréments, d'ordures, tout cela, tout ce qui reste, et qui est vendu aux maraîchers en dehors de la barrière des fermiers généraux pour faire des asperges ou du vin.
Vous avez dit que le point de départ de vos recherches, c'était donc la présence du chiffonnier chez Baudelaire. On peut y rajouter, je pense, l'œuvre de Walter Benjamin et l'interprétation qui en était faite, que sans récuser, vous complétez. Est-ce que vous pouvez nous donner les termes de ce débat?
Alors, Walter Benjamin s'est intéressé au chiffonnier dans les années 30. Hein. Il s'est intéressé au chiffonnier comme un personnage important de Paris qu'il appelait capitale du 19e siècle. Mais il avait tendance à utiliser la familiarité de Baudelaire avec le chiffonnier pour soutenir que Baudelaire était toujours resté un révolutionnaire après 1848. Bon, c'est une vieille querelle. Est-ce que Baudelaire, qui, après 1848, se réclame de Joseph de Maistre et de la religion catholique, est devenu réactionnaire? Ou Baudelaire est-il resté le révolutionnaire des barricades de 1848? Et Walter Benjamin s'appuyait sur cette assimilation de Baudelaire au chiffonnier pour plaider en faveur de cet aspect d'un Baudelaire conspirateur contre la société jusqu'à la fin de sa vie. Et il me semble que c'est un peu surinterprété, dans la mesure où tout ce que j'ai pu trouver assimile plutôt le chiffonnier au maintien de l'ordre. On l'a dit, c'est un ancien soldat, c'est un repris de justice. Il est proche de la préfecture de police, des portiers, des indicateurs. La métaphore du chiffonnier comme mouchard traverse toute cette période. Il me semble que la proximité de Baudelaire et du chiffonnier, ce n'est pas trop dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter.
Nature.
Mais plutôt, comme d'ailleurs Marx l'avait fait, du côté du lumpenprolétariat qui sert de troupes auxiliaires à Louis-Napoléon Bonaparte.
Et pour Baudelaire, sa proximité et son utilisation du chiffonnier est toute littéraire et d'une autre nature. Est-ce que vous pouvez développer ces liens au-delà de ce qu'on a dit, c'est-à-dire la boue qui se transforme en or?
L'analogie de Baudelaire avec le chiffonnier Bon, on la trouve chez d'autres, hein. On la trouve chez Champfleury, on la trouve chez beaucoup d'autres poètes contemporains. Le chiffonnier est un flâneur parisien, et c'est pourquoi Baudelaire peut comparer le poète qui cherche ses rimes en titubant dans les rues de Paris au chiffonnier qui cherche ses trésors au coin des bornes dans les rues de Paris. Donc le fond de l'analogie, c'est cela. Ils font tous les deux partie de la bohème, ils sont des marginaux par rapport à la société parisienne, ils vivent dans les mêmes quartiers. Le quartier latin, qui est le quartier le plus pauvre de Paris durant cette période. Ils se rencontrent dans les cabarets des barrières. Et puis, il y a cette image du cycle du papier qui revient beaucoup. Le marché du chiffonnier, c'est un marché de la demande. Il est dicté par la demande. Il y a une demande de papier, alors que le marché de la poésie, c'est un marché de l'offre. Et malheureusement, il y a plus d'offres que de demandes pour la poésie au milieu du XIXe siècle. Et donc, le chiffonnier est aussi un peu l'anti-modèle du poète. Lui, on le demande. Et bon, c'est pourquoi cette proximité est souvent... insistante. L'ami de Baudelaire, Privat d'Anglemont, finalement, a le sort d'un chiffonnier. Il meurt dans la pauvreté à l'hôpital. C'est aussi le cas de Traviès, le caricaturiste du chiffonnier, qui finit dans la plus grande pauvreté. Donc, il me semble que dès lors qu'on prend au sérieux ce que j'appelle l'écosystème du chiffonnage au XIXe siècle, eh bien, cela amène à lire la poésie de Baudelaire et d'autres, Gautier, Hugo, un peu autrement, puisque le point de départ du livre, c'est la poésie, puis le point d'aboutissement, c'est aussi la poésie. Entre les deux, il y a l'exploitation ou l'exploration du système du chiffonnage dans sa dimension économique, politique, sociale. Mais tout de même, le but à l'arrivée, c'est de mieux lire la littérature et de redécouvrir tout un système symbolique qui avait été quelque peu négligé. On avait oublié le sens de toute une série d'expressions que je retrouve un peu partout dans la littérature et au fond, presque jusqu'à la guerre de 14. Mais c'est un système symbolique qui se maintient. J'ai dit, la grande époque de la chiffonnerie, c'est fini dans les années 1880. Les années 1880, bon, c'est fini. Paris s'agrandit. Les chiffonniers ne sont plus dans le quartier Mouffetard. Ils sont renvoyés à la zone, donc dans le quartier de Clichy-Saint-Ouen, où on les a encore connus quand j'étais enfant. Mais ils ne sont plus spécialisés dans le chiffon, ils sont hors de Paris, ils n'ont plus une hotte et un crochet, mais ils se promènent, parce que Paris est devenu trop grand, avec des voitures à roues. Le chiffonnier, on en perd peu à peu le sens. J'ai trouvé encore chez Peggy. Par exemple, chez Peggy, j'ai trouvé, c'était très intéressant, dans la poésie de Peggy à la veille de la guerre de 14, l'image du chiffonnier, un autre mythe du chiffonnier que nous n'avons pas évoqué, c'est le chiffonnier trouveur d'enfants. Les enfants abandonnés, où abandonne-t-on les enfants au XIXe siècle ? Au coin des bornes, ces bornes qui sont tout au long des rues de Paris avant Haussmann, c'est là qu'on abandonne les enfants. Ce sont donc les chiffonniers qui trouvent les enfants et qui les emmènent aux enfants trouvés. Les enfants trouvés, c'est pas très loin de la rue Mouffetard. Hein. Et c'est aussi le même quartier, c'est un quartier pauvre, assez provincial. Donc chez Peggy, on trouve encore cette image qui est présente chez Hugo, qui est présente un peu partout, chez Jeannin, on la trouve encore chez Peggy. Hein. L'idée que le chiffonnier est celui qui trouve les enfants, souvent les garde, et dans la littérature du XIXe siècle, il y a une autre légende qui est celle de la fille du chiffonnier. La fille qu'il a adoptée après l'avoir trouvée, qu'il a élevée et qui, bien entendu, plus tard se révèle la fille d'un grand aristocrate, tout heureux de la retrouver et qui récompense le chiffonnier qui lui rapporte.
Éternel schéma des contes de fées.
C'est le conte des fées. C'est le conte des fées. Donc voilà. Puis ensuite, cette expression, le coin de la borne, que j'ignorais avant de faire ce livre, hein, le coin de la borne. Le coin de ces bornes qu'il y avait dans toutes les rues parisiennes, qu'on peut encore retrouver en se promenant dans Paris, il y en a encore quelques-unes.
Mais alors où ? Parce que j'ai essayé, en venant à l'Institut, je me suis dit, tiens, je vais essayer de repérer des bornes, je n'en ai pas vu.
Ben, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, et malheureusement, j'ai pris des photographies de bornes il y a quelques années, il y a 3-4 ans, qui existaient et qui n'existent plus. Mais on les trouve dans les rues privées. Non pas dans les rues publiques ou partout elles ont disparu,
donc
mais
on appelle les villas là.
On en trouve dans le quartier du Marais. Hein, il y en a encore. Il y a une petite rue qui donne dans la rue des Archives, dans laquelle rue privée, hein, dans laquelle il y a des bornes. Si vous allez au Val-de-Grâce, le passage qui est juste à gauche du Val-de-Grâce, de l'église du Val-de-Grâce, il est plein de ces bornes parce que c'est un passage privé. C'est seulement des passages privés qu'elles ont pu subsister. Et bien cette expression du coin de la borne a complètement disparu de la langue à partir de la guerre de 14. Le coin de la borne, c'était le lieu de la déchéance depuis le Moyen-Âge. On tombait au coin de la borne, il n'y avait pas encore de trottoir à Paris, c'est le trottoir qui a éliminé la borne. Et la borne, c'est ce que, par exemple, Victor Hugo appelle l'oreiller du pauvre. Magnifique expression, c'est le lieu où l'on retrouve les ivrognes, couchés avec la tête appuyée sur la borne, et je donne un certain nombre de caricatures où on les voit appuyés aux bornes. Ben, tout ça, ce sont des images qui ont disparu avec la guerre de 14.
Et aujourd'hui donc, qu'en reste-t-il ?
Aujourd'hui, que reste-t-il du chiffonnier ? Ben, je vous le disais, nous avons bien sûr dans la région parisienne et dans toutes les grandes capitales, toute une petite armée pratique l'économie circulaire. Hein. Lorsqu'on se promène le matin dans Paris, il y a toute une population qui soulève les poubelles. Puisque nous n'oublions pas, la poubelle, c'est la mort du chiffonnier. Hein. L'introduction de la poubelle, 1883-1884, il n'y a plus de tas d'ordures dans les rues de Paris, mais l'obligation d'un récipient avec un couvercle.
Alors vous nous apprenez d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire que j'ignorais totalement, c'est que dans le décret initial du préfet Poubelle, il était prévu du tri sélectif.
C'est ça. Le tri sélectif était prévu et à peu près celui que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une poubelle pour le papier et les chiffons, une poubelle pour le verre et la faïence et une poubelle pour les ordures ménagères. Mais il a fallu un siècle pour imposer cela aux Parisiens qui sont toujours assez résistants au changement.
Oui, nous ne sommes pas en Suisse.
Mais il y a une population qui continue. Il y a les puces. La succession de la chiffonnerie du 19e siècle, c'est les puces. Les puces qui ont été à la mode des surréalistes. Hein. Ça, c'est la lignée de la chiffonnerie. Et puis, il me semble que le chiffonnier contemporain, le chiffonnier d'aujourd'hui, c'est celui qui chiffonne dans le monde numérique. C'est sur Internet qu'on chiffonne aujourd'hui. C'est là qu'on fait des fortunes. C'est là qu'il y a cette ambivalence du hacker qui, à la fois, est rebelle et à la fois peut entrer au service des autorités. La chiffonnerie aujourd'hui, elle est virtuelle, pour ainsi dire. Elle a lieu dans le monde numérique.
Je ne sais pas comment dire. On coupera. Vous concluez en disant que nous sommes tous des chiffonniers désormais.
Ben, nous sommes tous des chiffonniers parce que nous sommes entrés dans une époque de ce que j'appelais l'économie circulaire. Il me semble que ce qu'on peut dire à la fin de cette étude, c'est que au fond, il y a eu à peu près un siècle de gaspillage, des années 1880 à la fin du 20e siècle, si vous voulez, où on n'a pas trié les ordures, où on a peu recyclé, mais au fond, c'était une parenthèse par rapport à une beaucoup plus longue durée. Dans la longue durée, eh bien, on n'a jamais gaspillé. Au XIXe siècle, à l'époque de Baudelaire, de Hugo, de Flaubert, les ordures de Paris étaient recyclées à 100%. Il n'y avait rien qui ne fût utilisable, qui n'eût une valeur, y compris, comme je disais, la boue, ce qui restait qu'on avait, quand on avait tout évacué. Et puis, les fosses d'aisance qui... étaient à ce qui est aujourd'hui les buttes Chaumont, tout cela était utilisé pour faire des engrais. Donc oui, nous sommes de nouveau dans une période où...
Rien ne se perd, tout se transforme.
Rien ne se perd, tout se transforme. Et il me semble que c'est ce qui est plutôt de l'ordre de la longue durée.
Merci beaucoup. Nous découvrons donc la modernité et la contemporanéité des chiffonniers. J'invite nos auditeurs à poursuivre cette exploration car le livre est extrêmement fouillé et érudit, vous l'avez deviné, mais nous n'avons pas épuisé le sujet au cours de l'émission, il faut donc se le procurer et s'y plonger pour attraper avec un croc imaginaire les nombreuses pépites qu'il recèle, car il est plein de petites couronnes qui peuvent nourrir notre imagination. Les chiffonniers de Paris, par Antoine Compagnon, chez Gallimard, c'est dans la collection Bibliothèque illustrée des histoires. Merci beaucoup, monsieur.
Merci.